Bienvenue sur StratPol, nous sommes le jeudi 7 mars 2024, c'est notre bulletin numéro 176 et nous sommes à Paris. Et oui, je suis à Paris pour faire la promotion de mon dernier livre, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Donc j'ai déjà donné une conférence à Nantes, j'ai donné une conférence à Troyes, merci beaucoup. Vous êtes venus très nombreux et visiblement le livre intéresse puisque eh bien les ventes se comptent par centaines. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi pour soutenir notre site à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, PayPal et le canal Telegram payant. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la revue de notre partenaire Géopolitique Profonde. Et en plus là, dans le numéro 10, il y a un article de macroéconomie de Philippe Erlin avec lequel j'ai eu le plaisir de participer à une émission précisément de la chaîne Géopolitique Profonde. Voilà, je vous invite également à aller voir sur cette chaîne. Il y a des choses très intéressantes et puis il y a aussi en plus un article de Laurent Ozon, de Caroline et Galactéros, donc que du beau monde. Mais maintenant, passons tout de suite aux nouvelles économiques. Et la première nouvelle, eh bien, c'est la volonté de Vladimir Poutine de créer une bourse céréalière pour les pays des BRICS, hein, en fait. C'est-à-dire que les indices internationaux sur la vente des céréales, sur la vente des produits agricoles, eh bien, sont la plupart du temps décidés par les marchés occidentaux. Et donc, Vladimir Poutine veut sortir, hein, de cette obligation. Et c'est pour ça que donc il y a l'idée de mettre en place une bourse pour les BRICS. Il faut noter aussi, et c'est ce qui fait peur, notamment à l'Occident. Donc, d'ailleurs, notre nouveau ministre des Affaires étrangères, l'analphabète Séjourné, eh bien, a dit qu'en fait, si la Russie l'emportait en Ukraine, elle contrôlerait effectivement un tiers du blé mondial et plus de 50% des oléagineux à l'export. Et qu'en plus, elle trouverait évidemment facilement de la clientèle chez les gros acheteurs comme la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Voilà. Donc, effectivement, il faut pas oublier que la Russie, encore une fois, ce n'est pas seulement du pétrole et du gaz, mais c'est aussi du nucléaire et une puissance agricole qui doit être aujourd'hui d'ailleurs la première puissance agricole au monde. Puisqu'on parle du pétrole et du gaz, eh bien, d'après Bloomberg, les revenus entre février 2023 et février 2024 ont augmenté pour la Russie de 80%. On est en train de battre des records. Donc, c'est-à-dire que on est à plus de 10 milliards de dollars et que cela a eu comme conséquence de doubler les recettes fiscales liées à cette activité pour le mois de février. Donc, encore une fois, un échec complet des sanctions contre les hydrocarbures russes. Mauvaise nouvelle, une fois n'est pas coutume pour la politique de remplacement des importations par la Russie, c'est que le problème de remplacement donc des Boeing et des Airbus, dont on a souvent parlé, prend du retard. On s'attendait aux premières livraisons de MS-21 en 2024. Hein, l'MS-21, c'est le grand projet d'aéronautique qui doit remplacer l'Airbus A320 et ses versions plus récentes, notamment. Et en fait, les premières livraisons sont finalement attendues en 2025. Alors j'ai regardé un petit peu dans la presse spécialisée, puis on viendra sur ces questions-là avec notre ami Cyril Delattre à terme, au milieu de l'année, je pense. Les raisons qui sont données, c'est qu'en fait, bon, bah, la priorité pour les essais, en fait, la priorité est donnée au matériel militaire, évidemment, et qu'il y a tout de même, je crois, 37 sous-ensembles d'autres technologies qui doivent être remplacées et testées. Donc ça prend du temps et visiblement la Russie ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs et accélérer la série de tests pour éviter les accidents qui pourraient être liés. Cela dit, d'après notamment une des analyses que j'ai lues, c'est quelque chose d'assez courant dans des programmes de cette ampleur de prendre du retard. Voilà, espérons qu'en 2025, on aura finalement la livraison de ces avions et que le plan de 600 avions produits d'ici 2030 sera tenu, hein. Donc je rappelle, il y a quatre avions, donc essentiellement les Superjet 100 New, donc la version totalement russifiée, le MS-21 dont je viens de parler, le Tupolev 214 qui a déjà commencé à être livré et qui est déjà entré en service, et l'Ilyushin 96 modernisé. Voilà, mais encore une fois, ces deux derniers avions, eux, ne peuvent pas être produits en grande quantité, donc tout l'avenir, hein, de ce remplacement des imports est lié au MS-21 et au Superjet 100 New. Information intéressante, toujours économique, et surtout les conséquences en fait de la guerre que mènent les Houthis aux flottes essentiellement américaines et anglaises en mer Rouge. Eh bien, c'est que les pays africains s'enrichissent grâce à la nouvelle direction donc de passer par le Cap de Bonne-Espérance, hein, de contourner le contrôle africain. Donc, il y a évidemment les ports africains qui sont utilisés. Et inversement, cela, bien sûr, augmente les prix de manière significative pour tout le commerce vers l'Europe. Donc encore une fois, c'est vraiment intéressant de constater, c'est qu'une petite armée comme celle des Houthis, qui dispose de missiles, de technologies qui ne sont pas les plus modernes, de drones, eh bien, peut mettre en danger le contrôle des mers par la flotte anglaise et surtout par la flotte américaine. Qu'est-ce que ce serait si les Russes, en réponse à ce qui se passe en mer Noire, se décidait à fournir des vecteurs plus efficaces et plus puissants aux Houthis. À mon avis, c'est encore une fois une option qu'ils gardent sous la main, mais pour l'instant, ils veulent éviter l'escalade avec les puissances anglo-saxonnes, donc on n'en est pas encore là. La crise entre l'Ukraine et la Pologne continue pour ce qui concerne les produits agricoles, et d'ailleurs, la Pologne a demandé à ce que les privilèges commerciaux qui avaient été accordés à Kiev au début de l'opération militaire spéciale, eh bien, soient annulés. Et d'ailleurs, désormais, la crise agricole, en fait, couvre l'ensemble des pays de l'Union européenne. On l'a vu en France, on l'a vu en Pologne, on l'a vu en Allemagne, désormais en Tchéquie. Donc, voilà les conséquences, en fait, hein, de la politique de l'Union européenne, ce qui est intéressant à la veille des élections du Parlement européen, précisément. Victoria Nuland, donc, qui est l'équivalent, on va dire, de vice-ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, hein, on appelle ça le département d'État, vient de démissionner. Donc, tout le monde s'interroge effectivement sur les raisons de sa démission. Victoria Nuland, c'est l'artisan principal de la guerre que mène Washington contre la Russie par un régime qui vient interposer. Elle était sur le Maïdan en train de distribuer ses cookies à droite à gauche. Elle a vraiment été le vecteur, en fait, donc, de cette politique quasiment de haine contre la Russie. Elle pensait beaucoup de mal de l'Union européenne. Elle méprisait l'Union européenne. D'ailleurs, on se souvient de cette conversation qui avait été publiée, donc que je ne retranscrirai pas ici, puisque elle a parlé de manière assez vulgaire de l'Union européenne, qui est en fait difficile de lui reprocher. Et donc, elle a été démissionnée, notamment pour une question de dépenses des budgets liés précisément à cette opération contre la Russie qui tourne mal, qui tourne évidemment à l'attention de la Russie. Donc, c'est une affaire qu'il faut suivre. Pour l'instant, tout ça n'est pas très clair. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est remplacée par un certain John Bass, qui était ambassadeur en Afghanistan et qui a organisé le départ en catastrophe, dans la grande tradition vietnamienne, en hélicoptère du toit de l'ambassade des États-Unis à Kaboul. Donc, est-ce que ça veut dire qu'une désormais une partie, y compris de l'establishment américain démocrate, veut mettre fin à l'expérience en Ukraine, hein, sachant que, comme je l'ai répété d'ailleurs dans plusieurs de mes conférences, encore une fois, du point de vue de l'objectif économique qui était la destruction de l'économie européenne, ça s'est fait. Donc, à la limite, se contenter de cette victoire, garantir que l'Allemagne ne se précipitera pas dans les bras de la Russie dès que la guerre sera terminée, et ça pourrait justifier, en fait, un abandon en rase campagne du régime de Kiev et de l'Union européenne dans cette histoire. Diplomatie toujours, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a fait plusieurs déclarations, notamment en disant qu'étaient inadmissibles les pressions sur Pékin pour tenter de séparer la Chine de la Russie, et également a dénoncé comme une honte le traitement qui était infligé aux Palestiniens à Gaza. Donc on voit une fois de plus cette nouvelle multipolarité qui remet en cause toutes les actions et qui les rend d'ailleurs impuissantes, toutes les actions menées par l'Occident collectif, c'est-à-dire Washington et les États esclaves européens. Il y a une certaine prise de conscience, on le sent, du côté des élites européennes que plus rien ne sera comme avant, après, encore une fois, le conflit à Gaza, après, surtout, après la défaite de l'OTAN et de l'Union européenne face à la Russie en Ukraine, et c'est Borrell qui l'a admis, qui a déclaré que la domination occidentale est terminée. La compréhension des Occidentaux vis-à-vis du reste du monde est assez caractérisée dans l'affaire Navalny. On l'a vu notamment avec l'enterrement d'Alexei Navalny. Donc, il en a été fait tout un programme dans les médias de grand chemin français, dans les médias occidentaux en général, alors que finalement, ça a attiré très peu de monde pour une ville de 13 millions d'habitants. Beaucoup d'ailleurs de délégations des ambassades occidentales, qui d'ailleurs se sont mis à ricaner, ça a été filmé, ça a d'ailleurs fait pas mal scandale sur les réseaux sociaux, et qui se sont mis à ricaner au moment de l'ensevelissement de la tombe, du cercueil d'Alexei Navalny. Évidemment, on va nous sortir également son ex-femme, donc Navalnaya, en imaginant, parce que les Occidentaux imaginent, qu'elle puisse avoir une quelconque influence en Russie. C'est tout simplement incroyable d'ignorance de la réalité de la politique russe. Mais après tout, s'ils ont de l'argent à dépenser, eh bien qu'ils soutiennent cette Madame Navalny. On regardera ça de loin avec un petit air amusé. Politique toujours, eh bien c'est le triomphe de Donald Trump dans les primaires après le Super Tuesday, le Super Mardi, où il a largement écrasé Nikki Haley, donc était son dernier opposant à ses primaires. D'ailleurs, tout le monde se demandait pourquoi elle continuait. Alors, elle était soutenue paradoxalement par les démocrates, puisque d'après ce que j'ai appris, dans certains États américains, eh bien des démocrates peuvent voter aux primaires républicaines, après tout. Pourquoi pas ? Donc, a priori, Donald Trump est le candidat des Républicains aux premières élections. Sera-t-il jeté en prison avant ? Sera-t-il tué ? C'est comme une habitude dans la démocratie américaine. Nous le verrons bien. De toute manière, encore une fois, les Russes ne misent pas sur l'élection de Trump vis-à-vis de la politique ukrainienne. Quoi qu'il arrive, ils ont leur ligne, ils la tiennent. Si Trump renonce à soutenir l'Ukraine, eh bien, ça mettra fin au conflit, en fait, en 2024. Et sinon, eh bien, ça continuera. Et de toute manière, à la fin, ce sont les Russes qui l'emporteront. En attendant, la prochaine échéance, d'après la presse américaine, eh bien, c'est en avril, où là, de nouveau, un plan d'aide à l'Ukraine. Alors, plus petit que celui qui avait été proposé, puis je crois qu'on est passé de 60 milliards de dollars à 47 milliards, sera de nouveau soumis au vote du Congrès, sachant que tout de même, plus l'élection approche, mes amis américains qui connaissent le système américain me disent qu'il est peu probable que cette aide soit votée. De toute manière, on verra bien, et encore une fois, de toute manière, ça ne fera que changer la date de la victoire russe. Rien ne remettra en cause, rien ne peut remettre en cause la victoire russe. Notre leader bien-aimé, Emmanuel Macron, s'est rendu en Tchéquie, où il a rencontré Petr Pavel, donc qui est le président tchèque, qui est ancien général de l'OTAN, je crois, donc une créature mise en place par Washington, et finalement, c'est le seul qui a dit, effectivement, qu'il, pourquoi pas, il fallait penser peut-être envoyer des troupes au sol. C'est ce qu'Emmanuel Macron a répété, donc, au chef des partis politiques qu'il a convoqué. Je maintiens ma position, c'est-à-dire que, bon, déjà, nous, on n'a rien à envoyer. Le général Chauvency, il a dit sur LCI, c'est 15 000 hommes, donc ça ne changera absolument rien. Il faudrait mobiliser la population française, donc, qui n'a fait plus de service militaire. Donc, en admettant qu'on mobilise, allez, faudrait envoyer, autant que pendant la guerre de Crimée au XIXe siècle, 300 000 hommes. Comme les Russes, en fait, donc il faudrait prendre 300 000 hommes, les former pendant au moins 6 mois, puisque la plupart n'ont jamais tenu un fusil. Qui on va mobiliser ? Je pense que si on essaie de mobiliser les banlieues de la diversité et de l'amour, ça va très mal se passer, parce que Vladimir Poutine, notamment, y est très populaire, et d'ailleurs pas plus que les Français de souche. Ils n'ont envie d'en les mourir face à l'armée russe dans la steppe pontique de l'Ukraine. Voilà, donc beaucoup. Comme d'habitude, Emmanuel Macron bavarde, dit une chose, dit son contraire deux jours après, redit le contraire deux jours après. Je pense qu'il faut, assumer de ne pas prendre ce que dit Emmanuel Macron au sérieux. Faut-il l'écouter ? C'est encore la question. En tout cas, je vois que beaucoup de gens s'inquiètent. Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet quand on connaît, encore une fois, l'état de l'armée française. Il faut noter dans le cadre des BRICS la visite à Moscou du ministre des Affaires étrangères nigérian, Youssouf Matama Tugar, donc qui a rappelé la position non alignée du Nigeria, donc qui est, je rappelle, une ancienne colonie britannique, un des pays les plus riches d'Afrique et des plus peuplés, et qui a annoncé la volonté donc du Nigeria de rejoindre les BRICS, et qui a confirmer l'approche souveraine du problème, notamment de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que personne ne pouvait imposer au Nigeria de sortir de sa position non alignée et de, bien sûr, ça veut dire en gros de s'aligner sur les Occidentaux. À suivre donc, montée en tension dans ce qui est l'ancienne République socialiste soviétique moldave, en Moldavie, où deux des provinces qui composent donc la Moldavie se sont adressées à Moscou pour demander le soutien, parce que le gouvernement de Madame Sandu, qui est arrivé au pouvoir avec le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN, et qui, au lieu de conserver, eh bien, une politique de neutralité, a décidé de s'attaquer donc aux provinces qui sont sécessionnistes, donc la Transnistrie, qui est peuplée principalement par des Russes, mais et également la Gagaouzie. Et ce qui fait que la présidente de l'autonomie gagaouze, Madame Yevgenia Goutsoul, s'est rendue à Moscou et a rencontré Vladimir Poutine. Alors, a priori, elle pourrait être arrêtée à son retour en Moldavie. On va voir. Ce qui est clair, c'est que, à la place de Madame Sandou, j'irai doucement sur la persécution des minorités parce que l'armée russe pourrait bien finir par arriver à Odessa. Et dans ce cas, la Gagaouzie, la Transnistrie, quitteront définitivement la République moldave pour rejoindre la Fédération de Russie. Et il n'est pas dit d'ailleurs que la Moldavie subsiste à ce genre d'opération. Mais peut-être que finalement, d'ailleurs, cette partie de la Moldavie sera rattachée à la Roumanie, sachant qu'il y avait quand même une gauche en Moldavie, donc qui était au pouvoir avant l'arrivée de Madame Sandou, qui essayait de ménager finalement les différentes composantes de cette république relativement artificielle. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a vraiment le sentiment que l'OTAN, que l'Union européenne est prêt à jouer n'importe quelle carte sans vraiment calculer les conséquences de cette politique belliciste, hein, systématiquement antagoniste. Ce qui est clair, c'est que quoi qu'il arrive, tous ces problèmes-là seront réglés une fois que la Russie sera arrivée à Odessa. Terrorisme maintenant, Washington et Londres activent toutes les branches terroristes donc qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc on a parlé évidemment le terrorisme ukrainien en Russie, mais également biélorusse, puisqu'un terroriste biélorusse, enfin en tout cas venant de Biélorussie, a été arrêté par le FSB. Et également grosse opération antiterroriste en Ingouchie contre un groupe islamiste. Donc là, on est vraiment sur les piliers, hein, fondamentaux de l'action subversive de Washington et de Londres, hein, de manipulation de soit bah, des groupes néo-nazis ou bandéristes, comme vous voulez, côté ukrainien, côté biélorusse, côté russe même, soit l'islamisme. Hein, et on peut imaginer aussi que les réseaux mafieux vont être activés contre la Russie, d'autant plus que, comme on va le voir sur la carte militaire, eh bien, la situation est extrêmement difficile pour l'OTAN. Armement maintenant, encore un Abrams détruit, donc on en est à 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été détruit par un tir direct d'un T-72B3. Donc c'est une modernisation du T-72, hein, qui est déjà un char qui a 50 ans, plus de 50 ans, mais qui était remarquablement, visiblement bien modernisé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que même en affrontement direct, en fait, l'Abrams, qui fait 20 tonnes de plus, eh bien ne fait pas le poids, c'est le cas de le dire. Ça, c'est la première constatation. La deuxième, on l'a déjà faite, c'est que finalement, aujourd'hui, l'Abrams, comme les Challenger, est utilisé comme de l'artillerie, de l'appui-feu pour l'infanterie. Et donc, les grands espoirs de faire des percées à la Guderian ou à la Joukov dans les lignes ennemies à grands coups de choc blindé, eh bien, n'existent plus. Il semble que l'offensive qui a lamentablement raté Otano-Kievienne l'été dernier a dissuadé les Otano-Kievien précisément, de faire ce genre de manœuvre. Et c'est aussi intéressant de voir que, alors qu'évidemment c'est une très mauvaise publicité pour l'Abrams, eh bien malgré tout, les Ukrainiens n'ont plus que ça à envoyer. Et ça aussi, c'était quelque chose qu'on avait vu lors de la libération d'Avdiivka, c'est que la plupart des matériels étaient des matériels de l'OTAN. Donc visiblement, l'armée otano-kievienne ne peut plus aligner d'armement soviétique, et met désormais, y compris ses matériels précieux, magiques, hein, ses armes magiques. Je rappelle que l'Abrams, comme le Léopard 2, devait être des armes magiques qui allaient changer le cours de la guerre. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Si l'on en croit CNN, les conséquences de cette dépense de moyens occidentaux, notamment et même principalement américains, eh bien, c'est l'épuisement de l'armée américaine, puisque en l'absence de vote par le Congrès, eh bien, le Pentagone, pour soutenir l'effort de guerre qui vient, doit continuer à prélever sur ses propres stocks stratégiques, et ça ne peut pas durer éternellement. Donc la situation risque de devenir difficile pour l'armée américaine, bon, qui évidemment n'est pas menacée directement, mais si ça continue, en fait, une fois que les Russes en auront fini avec l'Ukraine, eh bien, ils pourraient aller aux États-Unis reprendre l'Alaska. Je plaisante, évidemment, hein, je plaisante. Je crois que ce n'est pas au programme. Information intéressante de la part de Monsieur Tchemezov, donc qui est le patron, on en a souvent parlé ces derniers temps, d'Euros Technologies, donc ce gros conglomérat qui détient une bonne partie des grandes entreprises publiques aéronautiques civiles et militaires, de production de chars, d'explosifs, etc., etc., et qui a dit que l'Armata désormais était en dotation dans l'armée de terre russe. On se souvient qu'il a été testé avec succès d'ailleurs sur le front ukrainien, mais qu'il a déclaré qu'il doutait qu'il soit déployé parce qu'en fait il était trop cher. Ce qui veut dire que les Russes ont fait la même erreur que les Occidentaux, notamment les Français. Hein. Le char Leclerc est un excellent char, peut-être le meilleur au monde, mais il coûtait beaucoup trop cher. Donc aujourd'hui, en fait, on en a 200, avec 200 autres qui sont réservés en fait pour que les pièces détachées puissent être prélevées. Je rappelle qu'il n'y a plus de chaîne de production du char Leclerc. Donc le choix d'un matériel trop technologique, eh bien, s'avère un mauvais choix. Encore une fois, la guerre de haute intensité en Ukraine l'a montré. Et d'après ce que a dit Chemezov, je pense que la Russie va développer à partir de ses armatas une version moins coûteuse à la production et pour arriver à un espèce de compromis entre une arme qui soit efficace et une arme qui puisse être produite massivement et pas chère. Et en attendant, évidemment, le T-90 ProRiv reste le char de bataille le plus moderne dont dispose la Russie, et sachant qu'il est même, lui, à la limite surqualifié quand on voit que, comme on vient de le dire, un Abrams puisse être détruit par un T-72 B3. Voilà, donc encore une fois, la guerre de haute intensité a remis en cause des tas de choses que l'on croyait. Une arme, avant tout, doit pouvoir être produite en masse et pas chère si on veut participer à ce genre de guerre. On en avait parlé la dernière fois, c'était le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, le général Ignat, qui disait que Kiev ne pourrait pas fournir les infrastructures pour le déploiement des F-16. Maintenant, c'est dans Politico qui parle de ce problème. Les rumeurs expliquent que finalement, les premiers avions n'arriveraient pas à l'été, mais plutôt à l'automne. Et pour l'instant, le problème de la nécessité d'utiliser des pistes d'atterrissage de haute qualité, hein, où la prise d'air du F-16 ne risque pas d'attraper des gravillons ou des choses qui pourraient l'endommager, pour l'instant, la solution n'a pas été trouvée. Il faut trouver une solution pour que ça décolle du territoire ukrainien et que ce ne soit pas immédiatement détruit par les missiles russes. Donc c'est ça le véritable problème. L'autre solution, évidemment, ce serait de déployer les avions à partir de la Moldavie, donc auquel cas la Russie commencerait à bombarder la Moldavie. Elle ne fait pas partie de l'OTAN, donc il n'y aurait pas de conséquences. Mais je ne pense pas que les Moldaves soient vraiment contents d'assister à ça. Et encore une fois, faire décoller d'un pays de l'OTAN, ça, j'y crois pas. Ce serait, là aussi, ça veut dire que les Russes tireraient sur les pays d'où décolleraient ces avions. Donc finalement, ces F-16 sont un véritable casse-tête et ne constituent évidemment pas une arme miracle. Le magazine américain Military Watch, qui est un des magazines les mieux faits d'ailleurs, qu'on trouve sur Internet, sur les matériels, a reconnu l'importance que nous avions d'ailleurs pressenti à la fin de l'année 2022 sur le déploiement des bombes planantes. Encore une fois, ces bombes qui peuvent parcourir désormais maintenant entre 50 et 70 km, qui coûtent très peu cher à la production et qui sont extrêmement précises et qui ont permis à la Russie de l'emporter Avdiivka, qui est utilisée massivement sur toute l'étendue du front actuellement et qui donne d'excellents résultats. Et donc c'est 250 kg, 500 kg, 1,5 tonne, hein, sachant que la plus grosse bombe, le père de toutes les bombes, c'est 9 tonnes, donc on n'est pas encore là. Mais ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, maintenant, tout le monde constate que désormais, la puissance de feu russe, qui était déjà autour de 6-8 fois supérieure à la puissance de feu kievienne, otano-kievienne, désormais, on est quasiment, en ajoutant toutes ces capacités, à un rapport qui va de 10 contre 1 et qui, évidemment, se concrétise par des pertes infiniment plus importante côté kievien que côté russe. Armement, enfin, depuis le bulletin numéro 175, on a assisté à la destruction de 3 systèmes HIMARS, donc c'est documenté par des vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes ont été détruits par une version modernisée des lance-roquettes multiples Tornado russes, c'est-à-dire en fait une version avec un tir de précision équivalent au HIMARS. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne le HIMARS, la contre-batterie est désormais en faveur des Russes, et cela va largement compliquer évidemment le déploiement de l'artillerie otano-kievienne et donc des forces otano-kieviennes. Rappelons encore une fois que les Russes ont quitté Kherson à l'automne 2022, eh bien parce que le pont d'Antonovka, donc qui reliait les deux rives, était bombardé. L'OTAN avait tiré, je crois, autour de 200 missiles HIMARS sur ce pont. Donc si désormais les lanceurs HIMARS sont vulnérables, ça va compliquer énormément les choses pour l'OTAN. Considération militaire générale, le premier sujet, eh bien, ce sont les fuites, ce sont les écoutes, donc entre ces généraux allemands très imprudents qui ont conversé sur Webex et qui ont été écoutés par les services russes. Donc cette conversation a été publiée par Madame Simonian, donc la fondatrice de RT, Russia Today, et donc ça a fait un grand scandale En Allemagne, j'en ai pu en discuter aujourd'hui avec Edouard Husson, à qui j'ai donné une interview pour le Courrier des Stratèges. Et sans nous être concertés, nous en sommes arrivés à la conclusion que la fuite est délibérée, que les Allemands, y compris Olaf Scholz, veulent mettre fin à cette opération en Ukraine qui est vouée à l'échec, que les militaires allemands ne veulent pas livrer les Taurus, donc ces fameux missiles, et que le scandale qui a été créé, parce que dans cette conversation, encore une fois, il est question de calculer combien il faudra de Taurus pour détruire le pont de Crimée. Et évidemment, ça fait scandale, puisque officiellement, en fait, on livre les Taurus à l'Ukraine, qui après, avec la bénédiction allemande, eh bien, les envoie où ils veulent. Donc là, ça voudrait dire que ce sont les Allemands qui dirigent les opérations directement, ce qui serait d'ailleurs sans doute vraiment le cas. Mais cette fuite montre qu'en fait, la Bundeswehr, vraisemblablement, et l'Allemagne arrivent au bout du rouleau, se rendent compte de la catastrophe économique causée par le conflit ukrainien. Donc c'est plutôt, je dirais, cette fuite est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est aussi intéressant, en tout cas, c'est que il est question de détruire le pont de Crimée, alors que le pont de Crimée n'a aucune valeur stratégique militaire sur le front, puisque maintenant qu'il est clair que jamais Kiev ne pourra s'emparer de la bande terrestre qui relie la Russie d'avant 2022, c'est-à-dire la région de Rostov jusqu'à la Crimée, eh bien ça veut dire que les flux militaires, le matériel, passe par cette bande. C'est beaucoup plus discret que de faire passer par un pont qui doit être surveillé en permanence par les satellites américains. Voilà les petites considérations qu'on peut faire sur cette information. Vladimir Poutine, donc, dans son grand discours qui a eu lieu devant le congrès, son équivalent du congrès russe, donc il faut dire les choses, hein, c'est 2 heures et demie de discours. Il a très peu parlé de l'opération militaire spéciale. Il en a essentiellement parlé pour dire que les héros, les vétérans qui avaient risqué leur vie pour la patrie russe, eh bien, devraient être les futurs cadres de la Russie. Il a parlé de programmes de formation pour que notamment les officiers qui ont fait la guerre puissent être formés et ensuite trouver une deuxième carrière dans la direction des affaires de la Russie. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, hein, pour structurer la société. Il a eu un discours, hein, je vous renvoie encore une fois, ça a été traduit par RT en français, donc vous pouvez le retrouver. Donc ce discours est très riche, hein, sur un programme. Et l'essentiel, encore une fois, du 2h15, c'est sur la vision de Vladimir Poutine, les familles nombreuses, l'économie, le projet pour le 21e siècle. Enfin, c'est incroyable, cette vision est incroyable. Et il a un petit peu parlé donc de l'opération militaire spéciale, répondant indirectement à Emmanuel Macron, lui refaisant une nouvelle fois un cours de stratégie nucléaire, non pas pour menacer la France, ça, Soloviev s'en charge très bien, avec un humour au second degré qui passe pas toujours très bien, mais pour rappeler à Emmanuel Macron que deux puissances nucléaires ne peuvent pas se faire la guerre directement parce que ça peut provoquer une escalade et donc la fin du monde. Est-ce qu'Emmanuel Macron l'a compris, ou fait-il semblant de ne pas le comprendre? Voilà, bon, ça c'est à vous d'en juger. En tout cas, Vladimir Poutine, inlassablement, tente de lui expliquer ce que c'est que la dissuasion nucléaire. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. Et nous revoilà sur la carte militaire. Deux événements se sont passés en mer Noire. Une nouvelle fois, un bateau russe, donc c'est un patrouilleur, a été détruit par une attaque conjointe de plusieurs drones marins britanniques. Donc évidemment, ça c'est encore une opération organisée par l'OTAN, hein. Encore une fois, l'Ukraine est incapable d'effectuer ce genre d'opération, ce qui signifie aussi que pour l'instant, les Russes n'ont pas trouvé une solution contre ça. Mais encore une fois, ça ne remet pas en cause le contrôle de la marine russe sur la mer Noire, qui est fait toujours obligée de passer par le Danube pour rejoindre les ports roumains et faire du cabotage jusqu'au détroit du Bosphore. Les forces otano-kéviennes ont tenté une opération de débarquement sur la pointe est des côtes de la région de Kherson et ils ont été repérés par les forces russes et a priori, 5 bateaux ont été détruits. Un seul marin a survécu et a été interrogé. La vidéo a été rendue publique. Donc ça, on est encore, hein, exactement dans le même genre d'opération que sur ce qui a eu lieu sur Khimki, c'est-à-dire de la communication pour expliquer que les Ukrainiens sont en train de prendre d'assaut la région de Kherson. Voilà, le résultat, eh bien, c'est le même que sur Khimki, simplement ça a été immédiat. Du côté de Rabotino, Kiev a envoyé ses réserves stratégiques se font hacher littéralement par l'artillerie russe et les bombes russes. Et on s'attend à ce que les Russes reprennent ce qui reste de Rabotino et avancent jusqu'à la limite sud de Orekhovo, sachant que les Kieviens sont en train de construire des lignes de fortification derrière Orekhovo, c'est-à-dire que ils s'attendent à perdre cette localité. Et comme on le voit, la ville de Zaporoger est désormais à portée de main. Rien d'intéressant sur le front sud du Donbass. En revanche, les Russes ont quasiment achevé la prise de la localité de Novomikhailovka. Les contre-attaques ukrainiennes sur Pabieda n'ont pas fonctionné, ce qui fait que les Russes sont sur le point de réussir leur opération qui consiste à couper les approvisionnements d'Ougledar en contrôlant la route, un encerclement donc opératif. Les Russes ont légèrement progressé en direction du village de Georgovka à cet endroit-là et continuent leur poussée vers l'ouest. Du côté de Krasnogorovka, les Russes continuent leur poussée, mais pour l'instant, ils n'ont pas avancé davantage à l'intérieur de la localité. On remonte plus au nord, dans la direction de Tchassov-Yar, à partir de Bakhmout. Là, les Russes continuent à avancer sur Ivanovskoye, cette localité-là, et à pousser sur Tchassov-Yar, mais pour l'instant, la ligne de front n'a pas bougé. Ça a un peu bougé sur le front de Seversk, puisque les Russes ont réussi à pénétrer à l'intérieur de Belogorovka, donc cette localité-là, qui tient en fait l'extrémité est du front. Les combats se déroulent désormais à l'intérieur de la localité. J'ai pas changé la ligne de front à cet endroit-là, mais d'après certaines informations, les Russes auraient atteint la localité de Ternéry, ici, à cet endroit-là. Donc à confirmer. Rien de particulier sur le front de Koupiansk, sauf que depuis plusieurs semaines, eh bien, on observe une activité russe de bombardement sur toute le long de la frontière, en fait, donc de la région de Kharkov, des bombardements sur Voltchansk et dans la profondeur du dispositif ukrainien. Et beaucoup y voient la préparation d'une offensive russe qui partirait vers Kharkov, vers la région de Kharkov. À suivre donc. Voilà où on en est le 8 mars 2024. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant d'en terminer, je voudrais revenir rapidement, bien sûr, l'adoption par le Sénat et par le Parlement français de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Donc, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas la première fois. Le premier pays qui l'a fait, c'était la Yougoslavie communiste du Croate Tito. Voilà. Et puis, de toute manière, c'est un sacrement communiste. Hein. C'est Lénine qui a pour la première fois légalisé et organisé l'avortement de masse en Russie, je crois dès 1920. Voilà. Donc c'est un moment bien triste. Et de toute manière, ça rejoint ce que j'écrivais dans la gauche française. Donc c'est que vous avez d'un côté une gauche jacobine qui s'occupe du génocide à l'intérieur du pays, hein, donc génocide vendéen, mais pas qu'en Vendée, Nantes, Lyon, d'ailleurs Nantes, j'y étais le week-end dernier. Donc ça, c'est une chose. Et puis vous avez également donc la version girondine qui est de faire la guerre à l'extérieur. Donc c'est là où on se rend compte que la gauche bourgeoise qui a fait la révolution en 1792, eh bien, est profondément belliqueuse et c'est une véritable culture de mort. Et qui malheureusement domine, comme l'a montré l'adoption de l'avortement, la totalité du champ politique français, en tout cas des partis politiques représentés au Parlement français. C'est bien triste, mais de toute manière, à la fin, c'est nous qui allons l'emporter, nous, les nationaux conservateurs. En tout cas, pour revenir sur la situation sur le front, elle est bonne, voire très bonne. Économiquement, on l'a vu aussi, elle est bonne. Donc, courage, on les aura.